Alors j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 11. Nous lirons un court passage. Luc chapitre 11, verset 5. Un disciple avait demandé au Seigneur, « Apprends-nous à prier ». Ils avaient certainement été impressionnés par la vie de prière de leur maître et Jésus leur a répondu. Et puis au verset 5, il leur dit encore, Luc 11, verset 5, il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous allons prier. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu nous sondes, tu vois nos besoins. Et nous te prions de nous devancer dans chacun de ces besoins. Et une fois encore, notre prière, c'est que tu confirmes et bénisses cette parole de Dieu vivante qui est là pour nous, afin que chacun de nous, nous puissions être édifiés, rafraîchis, fortifiés, renouvelés, tout simplement par l'effet de ta présence et de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je pensais à la réflexion devant ce texte, quelque part à l'énergie. Vous savez, dans peu de décennies, la question se pose maintenant, qu'allons-nous mettre dans le réservoir de nos voitures avec la raréfaction de l'or noir, du pétrole? Et que nous servirait-il d'avoir des moteurs, des voitures de plus en plus performantes, comme vous le savez, si nous n'avons pas une énergie pour les faire tourner? Et dans notre vie chrétienne, avez-vous songé qu'il nous faut aussi une énergie? Nous avons ici, nous allons voir, un aspect de ce qui touche à notre vie chrétienne et qui est fondamental, parce que avec quelle énergie avançons-nous? Bien sûr, je connais votre réponse. Nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus un jour, du moins vous tous qui êtes ici, je l'espère, sinon c'est encore aujourd'hui, le jour de la grâce. Et nous avons bien sûr l'intention de le suivre, mais même avec de telles convictions, de bons objectifs dans nos groupes, de bons programmes, une stratégie, que sais-je encore, nous mettons en place des choses, des structures qui sont des outils très utiles pour servir le Seigneur, et il en faut bien sûr, mais est-ce que cela suffit-il? Et la tentation inconsciente, bien sûr, n'est-elle pas de nous appuyer inconsciemment sur ces outils? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, nous dit le passage de Romains 8, verset 26. Mais s'il y a une prière qui est selon la volonté de Dieu, c'est bien celle-ci, celle que nous avons lue au verset 13. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? S'il y a une prière qui plaît au Seigneur, c'est bien celle-là. Il y a abondance de provisions, nous le savons, dans la maison de notre Père, il y a abondance de paix, de joie, etc. Nous le chantons, nous le disons dans nos chants, mais il y a aussi abondance de son esprit. Et c'est un peu de cela, autour de cela, que j'aimerais faire tourner notre réflexion ce matin. Et il ne nous donne pas l'esprit avec mesure, nous dit un passage de l'Évangile. Et pour puiser dans cette abondance, eh bien, il nous faut demander et toujours redemander. Là, c'est la question. Peut-être qu'on n'y pense pas trop. Et je pense que vous avez, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire d'un grand monarque oriental qui donnait chaque année généreusement à son fils une belle rente royale. Et au bout d'un temps, ce monarque remarqua que son fils ne venait le voir que lorsqu'il lui donnait son argent. Alors, attristé parce qu'il était seul, ce monarque décida un jour de changer cette rente annuelle en une rente quotidienne. Ainsi, ce père aimant, eh bien, pouvait voir son fils, avoir la joie d'avoir son fils près de lui. Comprenons-nous que pour notre Seigneur, il en est de même. Ce qui se passe dans le cœur de notre Père, c'est cela, il a choisi, je crois, de nous rendre dépendants de lui. Et c'est très important à comprendre parce que dans cette dépendance, de cette dépendance même, nous allons pouvoir jouir de toute cette abondance en question. N'oublions pas que Dieu nous aime et qu'il aime nous écouter, nous donner généreusement, au-delà de ce que nous imaginons. Vous savez, je crois qu'on est changé quand on prie. Je suis de plus en plus, non pas partisan, je crois que c'est pas l'expression, mais je suis beaucoup plus conscient maintenant, après des années de ministère, que la prière, c'est vraiment une clé, si ce n'est la clé. Alors nous, vous savez, nous imaginons que quand on prie, c'est Dieu qui change. Et en fait, c'est nous qui changeons. On ne peut pas changer Dieu. Dieu ne change pas, mais quand on prie, évidemment de la bonne façon, et nous allons voir un petit peu comment, sous un certain angle, comment il faut prier. Et c'est nous qui changeons. Et lorsque nous changeons, nous nous rendons compte que l'œuvre de Dieu se fait. D'où cette parabole de Jésus, bien sûr, pour montrer comment demander. Demander, notez bien, pour servir, parce que dans cette parabole où l'on voit trois amis, il y a cet ami mystérieux, un peu bizarre, vous me l'accorderez, qui est dans une situation inconfortable. Il est dans une situation urgente, il est pressé des deux côtés dans l'histoire. Il est, comme on dit vulgairement, entre le marteau et l'enclume. Et là, il faut comprendre, d'une part, il est pris par l'arrivée inopinée d'un ami. Et cet ami qui arrive de nuit, de surcroît, et puis, il n'a rien à lui offrir. Alors là, il faut comprendre, moi je suis né en Afrique du Nord, et vous savez, l'hospitalité orientale, c'est sacré. J'ai vécu au Maroc, et on donne tout ce qu'on a quand on accueille quelqu'un. Nous, en Europe, c'est différent. Nous amenons quelque chose, ou un cadeau, ou une fleur, ou une plaque de chocolat, lorsque nous sommes invités. Mais en Afrique du Nord, et je pense en Orient en général, lorsque vous êtes invité, c'est vous qui recevez. Vous ne partez jamais les mains vides. J'ai été moniteur agricole au Maroc et je me souviens, j'ai toujours été frappé de ce que dans les familles les plus pauvres, les fellahs, quand on visitait en plus en tant que, comment dire, employé du gouvernement, eh bien, on ne partait jamais les mains vides. Les plus pauvres, vous remettez au départ ne serait-ce que 3 œufs, etc. Vous aviez droit, bien sûr, au préalable à un verre de thé à la menthe, formidable, mais c'est vraiment très frappant. Et cette hospitalité, quand on l'a vécue, nous aide à comprendre cet homme-là, qui donc, eh bien, est pris entre deux feux. D'autre part, cet ami est angoissé parce qu'il n'a rien à offrir, il est démuni. Il est à l'étroit au-dedans de lui, selon le sens d'un certain psaume dans l'Ancien Testament. Et il a bien un ami qui pourrait le dépanner, oui, mais cet autre ami, le troisième, a certainement la solution. Et lui, il est bien nanti. Mais on a l'impression que tout est contre ce pauvre ami qui reçoit. C'est la nuit, il est tard. Son ami est couché. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il est dit « Nous sommes couchés, mes enfants et moi, on ne sait pas s'il a une épouse. » Mais il faut comprendre que c'était dérangeant parce qu'à l'époque, on dormait tous dans la même pièce. « Nous sommes au lit, c'est une heure indue et il essuie un refus. » Seulement, voilà, notre ami du milieu n'est pas du genre à se laisser arrêter. Et il a décidé dans son esprit qu'il obtiendra tout ce qu'il lui faut absolument. Son besoin est tel, et cette pression même est si forte en lui qu'il va se montrer importun. Nous allons revenir sur ce terme, à cause de son importunité. Il va se montrer importun et demander avec un sans-gêne et une impudence étonnante dans ce récit. Il est sans vergogne, nous dit la traduction œcuménique de la Bible, la Taube. Le mot, d'ailleurs, au verset 8, ici, est paraît-il, unique dans le Nouveau Testament. Alors là, M. Donzel me corrigera. Il est unique dans le Nouveau Testament. Et cela, vous savez, m'a rappelé, il y a bien longtemps, la biographie de Martin Gray qui avait écrit « Au nom de tous les miens ». Et c'est l'histoire de ce juif qui avait échappé donc, à tous les camps d'extermination, etc. Donc je passe les détails. Il se retrouve aux États-Unis et là, vraiment décidé à gagner sa vie, il devient garçon de café. Et je me souviens de ce passage dans son livre où il faisait le maximum. Et il savait une chose, c'est que les dollars qui étaient dans la poche de ces Américains qui venaient consommer devaient passer de leur poche dans la sienne. Alors, pas évidemment, pas par le vol, bien sûr, mais par sa détermination. Cette détermination. Ainsi donc, par son importunité, cet ami va obtenir non seulement ses trois pains, mais tout ce dont il a besoin. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Et la leçon de Jésus, la conclusion qui se loge dans ce créneau, comment demander? Parce que c'est peut-être un lieu commun, mais c'est intéressant de regarder d'un peu plus près. Et Jésus dit, et moi je vous dis, il y a d'abord évidemment la personne de Jésus, cette parole fait autorité, Jésus sait de quoi il parle, lui qui était, faut-il le dire, un homme de prière, l'Épître aux Hébreux nous dit que il a supplié avec larmes celui qui pouvait le délivrer de la mort. À quel moment on le soupçonne, mais la Bible dit qu'il a été exaucé. Jésus affirme qu'il y aura une réponse certaine à cette triple exhortation. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour lui, c'est une loi, c'est une évidence, c'est un axiome, j'allais dire. Mais est-ce toujours vrai? Ce n'est pas toujours vrai. Est-ce que toujours celui qui cherche trouve? Je ne suis pas certain. Les méchantes langues, quand j'étais jeune, je me souviens, en Afrique du Nord, à propos d'une connaissance qui cherchait du travail, disait quelquefois, celui-là, il cherche du travail avec un fusil. Vous avez peut-être entendu cette expression. Ça voulait dire que si quelqu'un lui offrait du travail, malheur à lui, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus affirme cela. Et il y a là quelque chose sur quoi il faut revenir, c'est la disposition dans laquelle doit être le demandeur. L'importunité, l'expression sans gêne, impudence, peuvent se loger dans le sens de ce terme-là, importunité, qui est unique dans le Nouveau Testament, qui ennuie par ses assiduités, c'est ça, importunité. Et la Taube, qui a bien traduit sans vergogne, la vergogne dans ce sens étymologique, ça veut dire la retenue, ça veut dire la honte, c'est-à-dire on se lâche pas, c'est le contraire, les jeunes disent on se lâche, ben c'est exactement le contraire, on se maintient, on se tient à carreau si vous voulez. Et la pudeur, la honte, c'est un peu le sens dans lequel il faut aller. Et en espagnol, d'ailleurs, c'est le même mot, s'il y a quelques quelques-uns qui sont un peu d'origine espagnole comme moi, les Espagnols disent la vergüenza. Para los sinvergüenza, ninguna. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire pour celui qui est sans gêne, rien du tout. Sans vergogne. Pardon, quelqu'un a dit deux. Oui. Et donc, ce terme-là, tout compte fait, ce qui est important à retenir, c'est est-ce que ce que je demande, je le veux vraiment? Et là, il y aurait beaucoup à dire. Il y a une remarque importante, c'est que ici, ces trois verbes, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, etc. Ces trois verbes-là, demander, chercher, frapper, dans l'original grec, sont au présent, au participe présent. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de continuel, de duratif, si j'ose dire. Ce qui suppose une action continuelle, c'est de, si vous voulez, de l'intensité de la demande qu'il s'agit. Et Jésus, lui, qui passait souvent la nuit à prier, sait encore une fois de quoi il parle. Donc le fait que ces verbes soient au présent, au participe présent, eh bien, nous suggère qu'il faut persévérer. Sommes-nous des demandants? C'est peut-être pas très joli en français. Sommes-nous des demandants? Sommes-nous des cherchants? Sommes-nous des frappants continuellement? C'est-à-dire toujours suspendus aux jupes du Seigneur. Vous savez, comme les gosses qui sont là, toujours accrochés à leur jupe de la mère. C'est ça l'idée, tout à fait. Alors ici, après avoir écouté la leçon de Jésus, il y a la logique du Père qui reste un mystère, pour moi en tout cas un mystère, je dirais encourageant. Jésus va, lui, maintenant, parler de son Père. Il va parler du Père. Notez bien, il ne dit pas Dieu. À combien plus le Père céleste donnera-t-il? Pourtant, c'est la même personne. Alors, qui est mieux placé que le Fils de Dieu pour nous dire comment Dieu veut être prié? Jésus est tout à fait qualifié. Jésus connaît le Père de l'intérieur. Et il nous apprend ce qui se passe dans le cœur de son Père céleste. Et ce terme de Père, déjà, implicitement, nous suggère la proximité, l'amour, la protection. Un Père humain, même s'il est le plus grand bandit, ne trompera jamais son enfant et ne lui donnera pas, comme nous avons lu, un scorpion à la place d'un œuf, etc. Évidemment, il y a là une exagération voulue. Jésus est passé maître dans la question des paraboles, il sait comment doser, comment provoquer, comment exagérer à dessein pour ne pas laisser indifférent. C'est donc là que Jésus nous met en quelque sorte l'eau à la bouche. Et à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors réjouissons-nous de la générosité de notre Père. Je crois qu'il est bon. Sa joie, c'est de donner. Faut-il le redire? De donner, pas n'importe comment, bien sûr. C'est de nous voir. Et il ne nous donnera jamais une chose pour une autre, seulement, évidemment. Si nous sommes changés en priant, il nous suggérera les bonnes choses et jamais le Père Céleste ne nous donnera quelque chose qui deviendra dangereux pour nous. Vous savez, il m'est arrivé bien des fois, je ne dis pas plus d'une fois, mais bien des fois, de dire au Seigneur, ne me donne pas ce que tu ne veux pas que j'aie. Parce que vous savez qu'il y a un moment où si nous insistons tellement à vouloir une chose qui risque par la suite de nous poser un problème, Dieu peut lasser nous la donner. C'est l'histoire d'Israël qui voulait des cailles dans le désert. Vous voulez de la viande, vous en aurez de la viande. Et vous connaissez la suite. Donc attention, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et il ne nous donne pourtant pas une chose pour une autre. Le mystère béni, c'est que Dieu veut que nous demandions les bonnes choses qu'il veut. Ça vous a jamais arrêté cette idée-là, cette notion-là? Le psaume 2 dit « Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession » dans ce psaume messianique. Demande-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Combien de fois l'Écriture ne nous invite-t-elle pas à demander, à chercher? Et Jésus, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors souvent, j'étais arrêté, mais alors on peut tout demander. Oui, oui et non. Demander en fonction de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Ce mystère-là, c'est que Dieu veut donner, mais il veut qu'auparavant nous demandions. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, c'est que le Père Céleste ne vous donnera jamais les excellentes choses qu'il veut vous donner si vous ne les désirez pas au préalable. Et c'est là la clé. C'est une question de cœur. Est-ce que je désire les bonnes choses que Dieu veut me donner? Est-ce que mon cœur est changé au point de lui demander exactement ce qui va le glorifier lui, ce qui va me faire du bien et qui va servir les autres? C'est là la question. Et demander ardemment, au point de ne pas pouvoir s'en passer. Et je vais vous dire une chose, en demandant le Saint-Esprit, on ne se trompera jamais de prière. Demandez le Saint-Esprit. Et Roche-Dieu, que j'ai consulté, disait, mais c'est le don le plus excellent. Ce qui est étonnant, c'est la question, pourquoi ne le demande-t-on pas plus souvent? Alors nous arrivons évidemment au point crucial, pourquoi demander le Saint-Esprit? Et là, je crois qu'il faut être très clair, doctrinalement parlant. Il faut préciser que dans l'original grec, alors là, monsieur Donzel, merci encore de me corriger, mais l'article « le » n'est pas dans le texte original. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il Esprit Saint ou de l'Esprit Saint à celui qui le demande? Et qu'il faut donc probablement comprendre par là, selon certains spécialistes, qu'il s'agirait des dons, des qualifications, des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu des dons. Soyons clairs, nous ne n'avons pas à redemander la personne du Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Romains chapitre 8, je crois. Et il est vrai que le Saint-Esprit fait son habitation en nous, dans le cœur du croyant qui est né de nouveau. C'est ce qui fait de nous d'ailleurs un chrétien. Nous l'avons déjà. Et je crois que c'est juste de dire qu'il s'agirait alors des dons du Saint-Esprit pour servir. Mais ma suggestion, si vous permettez, c'est que s'il y a quelque chose, s'il y a par nature quelque chose dont nous sommes pauvres et démunis, c'est bien de l'Esprit de Dieu. Par notre nature, nous sommes portés à aller aux antipodes de la volonté de Dieu. Notre nature nous porterait à faire exactement le contraire, ou en tout cas pas ce que Dieu voudrait que nous fassions. Ça, c'est notre nature. Et nous sommes pauvres quant à cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui est un Esprit Saint, qui est un Esprit de vérité. Lorsque nous comprenons que nous ne pouvons rien faire sans Jésus, qui a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », alors nous allons commencer à devenir importuns. Et c'est là où est notre défi, je l'espère. C'est Jean chapitre 15 qui dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Coupé de moi, ça voudrait dire « vous ne pouvez rien faire ». Livré à nos seules ressources, effectivement, nous ne pourrions rien faire, malgré toutes nos bonnes intentions. Et je dirais que c'est cette indigence même naturelle qui est la nôtre, qui est la mienne, je vous assure. Ce sentiment d'être faible, démuni, qui va nous qualifier pour prier de cette façon-là. Pour, j'allais dire, crier au Seigneur, parce que la Bible, nous parlons de la prière en général, mais dans la Bible, c'est intéressant de voir qu'il y a différents termes. Il y a les actions de grâce, il y a la prière, il y a l'intercession, il y a toutes sortes d'autres termes encore qui suggèrent que la prière revêt différents aspects. La prière d'humiliation. Et à certains moments, on peut crier, parce que crier, vous savez ce que ça veut dire, c'est un appel au secours. On ne s'occupe pas de chercher des termes pour que ça plaise à l'assistance. On ne prie pas pour l'assistance, on prie parce que ça nous fait mal. Quand vous vous brûlez, vous criez, vous n'attendez pas de dire « tiens, je me suis brûlé, il faudrait peut-être que je crie ». Non, c'est un réflexe. La prière, lorsque le poids est là de votre misère, de votre indigence, alors vous priez. Vous priez sans le savoir de tout votre cœur. Et par rapport à ces objectifs que le Saint-Esprit veut inscrire en nous, c'est cela qui est important. Vous savez, saint Augustin a dit quelque chose comme « Les plus grands saints, ce sont ceux qui sentent leur misère. » Et c'est tellement vrai. Quand on sent sa misère, alors on commence à prendre le chemin d'être des saints. Et je vous assure qu'on va prier et qu'on va s'accrocher au Seigneur. Nous dépendons entièrement des ressources du Seigneur pour le servir et pour marcher. avec tous nos bons programmes, toutes nos bonnes intentions, etc. J'en veux absolument pas à toutes ces choses, au contraire. Mais, hélas, bien trop souvent, ne nous appuyons-nous pas sur notre savoir-faire, nos habitudes, la routine, le professionnalisme pour les pasteurs dont je suis, du moins les faibles serviteurs de Dieu que nous sommes. Et lorsque nous sommes pauvres, je crois que c'est là que nous commençons à devenir riches, pauvres lorsque nous acceptons cette pauvreté. Ne nous est-il jamais arrivé dans certaines situations, je pense que vous y êtes tous passés, parce que vous avez une visite difficile à faire, parce qu'il y a là comme un défi, et votre cœur n'a pas de repos, et votre prière constante est là au Seigneur, donne-moi ton esprit. Combien de fois cela m'est arrivé? Seigneur, donne-moi ton esprit. Ça veut dire, donne-moi cette capacité d'être à la hauteur de la tâche, de faire ce qu'il faut, de ne pas me tromper. Et c'est exactement cela, vous le faites spontanément. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait souligner, chers frères et sœurs, permettez que je le dise. Le pire, c'est que, à cause de ce que j'ai dit au préalable, parce qu'on peut, avancer comme un bateau qui a pris de l'élan, comment est-ce qu'on dit, sur son air, n'est-ce pas? Le bateau avance, les moteurs sont coupés, mais le bateau continue. Et on peut être ainsi, quelquefois, à notre insu. Je pense à Apocalypse au chapitre 3, qui parle de cette église, qui, de la Odyssée, je crois, qui dit, où il est dit, mais parce que tu ne sais pas que tu es nu, que tu es misérable, que tu es pauvre, je te conseille d'acheter de moi de l'or, etc. Vous voyez ce passage-là? Ça veut dire qu'on peut être, on peut ignorer un état de réelle pauvreté spirituelle. Alors qu'on chante des cantiques, qu'on peut prier, etc., bien sûr. Et je crois que ce serait terrible que d'être alors dans l'illusion, alors que le Seigneur veut nous donner de cette vraie richesse, de l'or. C'est toujours auprès de lui. C'est toujours dans l'abondance de la maison du Père qu'il faut puiser, et puiser constamment, demander et redemander sans se lasser. Et en le faisant, vous ne vous imaginez pas cette belle musique qui va résonner dans les oreilles du Père. Il aime entendre cela. Alors pour terminer, excusez si je suis un peu long, c'est toujours pareil, je mets ma montre et je ne la regarde jamais. Soyons ambitieux, permettez, Jean-Pierre, sois ambitieux quant à cette mesure d'Esprit Saint qu'il nous faut. Nous en avons besoin, oserais-je le dire, autant que l'air que nous respirons. Et à commencer par l'esprit de prière. Si, souvenons-nous du contexte, lorsque Jésus a donné cette petite parabole, c'est en tout de suite après, lorsque les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors il y a ce fameux Notre Père, dit Notre Père, qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est dans ce contexte-là qu'il a logé cette parabole, et moi je vous dis. Donc, à commencer par l'esprit de prière. Commencer au béaba. Seigneur, enseigne-moi à prier. Donne-moi ton esprit de prière. Et donc, on peut imaginer tout le reste. Faisons donc cette prière constante. Jeune ou moins jeune, cette prière ardente, cette prière instante, cette prière urgente, il s'agit d'urgence. Donne-moi, Seigneur, donne-moi ton esprit pour lire ta parole. Faites-le avant de lire la Bible, chaque jour. Donne-moi ton esprit. C'est cet esprit qui l'a inspiré. Donne-moi ton esprit pour obéir comme un disciple, pour écouter. Donne-moi ton esprit pour t'aimer, pour te servir. Donne-moi ton esprit pour faire ta volonté en tout temps. Ton esprit pour demander pardon à mon époux, à mon épouse, quand il le faut, à réparer les torts. Donne-moi ton esprit pour témoigner. Donne-moi ton esprit pour n'avoir point honte de l'Évangile. Donne-moi ton esprit pour me soumettre à tous les niveaux d'autorité, dans l'Église et dans la vie. Se soumettre pour glorifier Dieu. Donne-moi ton esprit pour prêcher, si je suis prédicateur, bien sûr, pour prier, pour adorer. Comme toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci.